France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine s'attarde sur certains mots très à la mode, surutilisés, mais pas toujours clairs. Ce matin, nous évoquons le mot « résilience ». Résilience, ce mot si souvent employé, désigne une capacité à surmonter des épreuves. Ainsi en physique, puisque le mot vient de là. Une substance est résiliente quand elle reste ce qu'elle est malgré des conditions extrêmes. Une personne dite résiliente essuie des chocs, des traumas, des peines, mais ne s'effondre pas, remonte la pente, relance sa vitalité. C'est beau. Mais cela peut aussi sonner comme une injonction à se montrer coriace et volontaire pour aller mieux, au lieu de se plaindre et de s'enfoncer dans la souffrance. Notamment quand ce sont des personnalités politiques qui invoquent la résilience, on a parfois l'impression qu'elles mettent un peu vite de côté le problème des souffrances elles-mêmes, celles que les politiques publiques doivent essayer d'éviter, de soulager, sans forcément miser sur la cicatrisation admirable de tout le monde, car nous ne sommes pas tous égaux face aux souffrances. Par ailleurs, ce mot « résilience » a un visage en France, celui de Boris Cyrulnik, essayiste, spécialiste du comportement animal et des phénomènes d'attachement qu'il a observés dans les travaux d'éthologie. Or, Boris Cyrulnik n'est pas l'inventeur du concept de résilience, entendu comme une capacité à résister aux aléas douloureux de la vie. C'est toute la tradition de la psychiatrie anglaise depuis la fin des années 1930 qui s'est intéressée à ces enjeux, épaulée aussi par des chercheurs américains et canadiens. Boris Cyrulnik le rappelle, parfois et heureusement. Mais nous avons choisi pour cette émission de faire vraiment toute sa place à cette généalogie du concept souvent méconnu. Et c'est pourquoi nous nous sommes permis, si j'ose dire, et malgré notre respect pour Boris Cyrulnik, de sauter par-dessus lui, même si bien entendu nous l'évoquerons lui aussi. Bonjour Didier Houzel.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, professeur honoraire de l'Université de Caen, psychanalyste, membre titulaire de l'Association psychanalytique de France. Vos travaux sont nombreux et sont précisés sur le site de notre émission. Vous nous parlerez ce matin du foisonnement de recherches sur les enfants et les adolescents effectués au Royaume-Uni dans la fameuse clinique de Tavistock, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, là et notamment dans le service du psychiatre John Bowlby. Ce sont développer des études sur l'attachement qui, lorsqu'il se passe bien dans les premières années de la vie, est protecteur, permet d'être moins vulnérable et plus résilient. Vous nous direz comment d'autres chercheurs encore, comme Mary Ainsworth, Michael Rutter et d'autres, souvent passés par ce lieu d'ailleurs, ont participé à l'élaboration de ce concept. Et bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Alors attention, vous avez une homonyme qui travaille sur l'intelligence artificielle, je me permets de le dire parce que nous l'avons reçue récemment. Vous êtes Laurence de Villers, philosophe, vous enseignez à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez fait des travaux notamment sur la philosophie du XVIIe siècle français. Je me souviens de vous avoir reçu sur Pascal. Et vous publiez aussi des ouvrages généraux. Le dernier en date, paru au PUF en 2017, s'intitule « Guérir la vie par la philosophie ». Mais attention, ce livre se situe très très loin de la notion de résilience qui vous énerve beaucoup, comme vous l'avez écrit notamment dans un article de 2020 dans Philosophie Magazine. Alors justement, commençons par cet agacement, par réfléchir à cet agacement, car je crois qu'il compte. Et pour cela, nous allons évoquer certains usages contemporains du mot résilience. Voici une déclaration du président Macron, peu après l'attaque de l'Ukraine par la Russie en 2022.
Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer, pour les prochains jours, un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés.
C'était donc peu après l'attaque russe contre l'Ukraine. Est-ce que cet usage du mot résilience fait partie des usages qui vous énervent, Laurence de Villers ?
Alors oui, particulièrement. Et pour deux raisons. La première raison, elle est philosophique. Après tout, les philosophes ont toujours voulu démonter les clichés parce que ce qu'ils voulaient éviter, c'est de la pensée qui pense plus. Et c'est ça, en fait. Ce mot est devenu un réservoir pour ne plus penser, et plus grave, pour ne plus désigner la réalité. Une fois qu'on a dit résilience, en fait, on s'est facilement donné l'autorisation de plus aller voir de près ce que ça donnait. Alors, et donc ça, c'est le premier agacement. Ensuite, un autre en découle, c'est ce que j'appellerais l'idéologie du positif, pour ne pas dire de la psychologie positive, qui veut absolument que tout fonctionne et soit positivé. Et puis, l'autre chose, c'est, vous avez commencé par ce discours politique, c'est que la politique de la résilience, c'est l'effacement du politique. On y reviendra sans doute, mais la résilience, ce mot cliché, donc qui ne pense plus, hein, et qui ne désigne plus la réalité, permet de tout faire reposer sur l'individu. L'individu doit résilier. Mais on n'examine plus les conditions objectives, politiques et sociales. Il y a une disparition totale, non seulement de la réalité, mais de la réalité politique.
Est-ce que, dans ce cas, le mot ne veut pas dire, et alors dans cette hypothèse, il y a quand même encore un peu de politique, ce qui ne veut pas dire tout simplement, nous allons faire un plan pour que vous souffriez moins, pour que vous alliez un peu mieux. C'est-à-dire, c'est un but, et ça, c'est un but politique. Le problème, c'est que pour dire ça, au lieu de dire pour que ça aille mieux, pour que ce soit moins dur, on emploie ce mot résilience, et le mot résilience, on va l'expliquer, il suggère, je parle sous votre contrôle, Didier Houzel, qu'en fait, on n'est pas égaux. La résilience, ce sont des capacités de certains individus à aller mieux, plus vite, et plus fortement que d'autres. Donc c'est pas du tout un bon mot, mais je reste avec vous, Laurence de Villers. En fait, le problème, c'est que c'est un mauvais emploi du mot. Si on disait un but pour que ça aille mieux, là ça irait, là ce serait politique.
Alors, il y a aussi la confusion des niveaux, c'est-à-dire que la souffrance, elle est ce qu'il y a de plus intime. C'est même, je pense, quand on doit raconter nos histoires, on pourrait le faire par nos souffrances. C'est vraiment presque une révélation de ce que c'est qu'être et qu'exister. Donc c'est intime et je ne vois pas en quoi ça doit pouvoir se confondre avec une politique nationale, internationale ou la géopolitique. Parce que là, c'était au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, donc c'est même géopolitique. Donc je pense qu'il y a déjà une confusion des genres. Et puis, pour vous dire que vraiment, je veux pas l'employer, même si le but, comme vous le dites, peut être louable, c'est que le mot résilience, donc c'est un effacement du politique, des conditions objectives dans lesquelles nous vivons, des raisons même économiques, voire judiciaires. Et puis, c'est un effacement de la morale. Et j'ai pas peur d'employer le mot, hein. J'emploie pas le mot éthique, je fais aucune différence. C'est que, très souvent, on veut dire résilience ou résilient quand il s'agirait, en fait, de parler de la sphère morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal.
Bon, là, il s'agit d'un plan
De ce qui est juste est injuste.
D'aide à des conditions matérielles.
Bah alors, il faut l'appeler comme ça. C'est de l'aide à des conditions. Non, mais c'est de l'aide à des conditions matérielles. Parce que, d'abord, utiliser ce mot pour absolument tous les domaines, c'est suspect. Et il faut absolument combattre ces mots qui servent à tout dire, parce qu'ils veulent rien dire. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir les idées claires. C'est là où vraiment il y a un travail.
Bon, c'est notre travail ce matin. Alors, j'aimerais faire réagir Didier Houzel, psychiatre, spécialiste des enfants, très bon connaisseur. Donc, vous êtes notre invité, très bon connaisseur des théories de l'attachement et de la résilience. Effectivement, c'est un mauvais emploi du mot que de l'assimiler à un but, disons, pour que les choses aillent mieux. C'est beaucoup plus complexe, le mot résilience.
Oui, ce qui me frappe le plus dans cet usage passe-partout du substantif résilience ou de l'adjectif résilient, c'est que ça vient clore une réflexion, fermer une question. Ce qui est un peu l'inverse de l'origine de l'usage de ce mot dans le champ de la psychologie et de la psychopathologie, où au contraire, il avait pour objectif d'ouvrir une question. Ouvrir la question, peut-être on en parlera un peu plus tard. des conditions optimales de développement psychique d'un enfant, des enfants en général. Alors que là, ça vient fermer les choses, et ça me fait penser à cette phrase que André Green avait soufflée à Wilfred Bion, qui est une de mes références psychanalytiques principales. Blanchot disait « La réponse est le malheur de la question ». Je pense que c'est un peu... Ça illustre un peu cette phrase très profonde, finalement.
Oui, très profonde.
Si on a une réponse, en tout cas dans ces domaines de la vie psychique, de l'expérience humaine, tout s'arrête. On n'a plus rien à dire et on ne réfléchit plus.
Alors, il y a aussi... Vous parliez de morale, Laurence de Villers. Je suis désolée, je reviens à Emmanuel Macron qui aime beaucoup ce mot, résilience. Un autre usage. Lorsqu'il y a eu les Invictus Games au Canada en février, qui est une compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap, il y a eu 19 représentants français en compétition qui ont obtenu d'ailleurs 15 médailles. Il les a félicités dans un tweet et il a dit... Vous nous avez fait honneur, par votre courage et votre force d'âme, vous incarnez l'esprit de fraternité et de résilience qui honore nos armées, la nation sera toujours derrière vous. Donc là, la résilience, c'est quelque chose qui existe chez certains sujets, chez certains individus. C'est ce que vous venez de dire, Didier Houzel, c'est complexe, c'est ouvert, c'est instable aussi, ça ne clôt pas. Mais là, comme on a l'impression que le mot résilience est employé comme quelque chose d'objectif, comme tout à l'heure, hein, des buts matériels à atteindre, là, dans cet usage, le président Emmanuel Macron parle d'un esprit de résilience. C'est comme s'il voulait, féliciter moralement les individus qui en ont été capables.
Ben oui, c'est liberté, égalité, résilience, parce qu'en fait, le mot résilience crée un consensus. Alors, loin de moi l'idée de faire l'apologie de la souffrance, de la rumination de la souffrance, hein, c'est pas ce qu'on fait ce matin, hein. Mais cette idée que la résilience, ça permet d'énoncer, voilà un autre mot qui m'agace, une valeur hyper consensuelle, personne va dire qu'il est contre la résilience. Donc, il y a un consensus avec une apparence de mots scientifiques, parce qu'on aime beaucoup ça aussi. Parce qu'on a l'impression qu'un langage technique et scientifique va créer à la fois quelque chose de très sérieux et une unanimité. Donc, on est vraiment dans une république du consensus, de l'unanimité, autour de valeurs qu'on n'énonce plus d'ailleurs, ou alors qui n'ont qu'un seul nom, c'est la résilience. Et donc, ça évite... de créer du conflit, parce que tout le monde va être d'accord. Il y a vraiment une sorte de consensus facile autour de la résilience. Et puis, encore une fois, j'insiste, c'est une manière de ne pas désigner les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que fait-on pour les personnes handicapées en France ?
En tout cas, il y a de la morale. Vous dites, il n'y a plus de morale.
Là, il y en a. Il y a de la morale, mais pas désignée comme telle.
Alors, qu'est-ce que le psychiatre a à dire sur cette invention d'une expression, esprit de résilience, pour laquelle on sent bien qu'il faudrait féliciter ceux qui l'ont, comme si c'était quelque chose d'assez volontaire, qu'on était méritant. Comment vous entendez cet usage du mot Didier Houzel ?
Je crois que le problème essentiel, c'est cette essentialisation de la notion de résilience, qui voudrait nous faire penser qu'il y a des résilients et il y a des non-résilients. Pourrait répartir la population entre ces deux catégories. Ce qui n'est évidemment absolument pas le sens que les pionniers du mot résilience ont voulu donner, mais qui tend, je crois, hein, je ne suis pas du tout spécialiste du vocabulaire, mais qui tend à être figé comme ça, dans une sorte d'essentialisation du sens du mot que l'on utilise. Et ça, c'est quelque chose qui est, d'une part, pas du tout l'esprit d'origine, et d'autre part, dangereux, parce que je dirais, j'espère qu'on pourra en parler un peu, il y a des fausses résiliences. Il y a des gens qui donnent l'apparence de s'en être très bien sortis, et qui, au fond, s'en sortent pas si bien que ça dans leur intimité, dans leur expérience profonde.
Alors, le mot est donc employé, mis à toutes les sauces. Je voudrais pas qu'on croie qu'on se focalise sur Emmanuel Macron. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique en 2021, a annoncé pour valoriser les collectivités urbaines menant des politiques environnementales satisfaisantes la création d'un label Résilience France Collectivité. Le rapport de la Banque de France de février dernier mettait en avant des efforts, je cite, pour renforcer la résilience opérationnelle du secteur financier. Et puis l'assimilation de la résilience à une capacité à l'effort, c'est banal. Écoutez par exemple Matt Résume, influenceur, sur TikTok.
Plus tu fais des activités difficiles, plus tu remodèles ton cerveau et le rends capable de faire des activités difficiles. Selon cette étude, c'est lié à une partie du cerveau appelée le cortex singulaire antérieur. Quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, cette partie grandit. Elle serait liée à notre ténacité, notre motivation et notre résistance à la tentation, comme à la nourriture par exemple. Cette zone peut notamment devenir plus petite pour les gens qui échouent à un régime alimentaire. L'activité réduite de cette zone implique une augmentation de l'apathie, de la dépression et de la capacité à se motiver. À l'inverse, ceux qui surmontent constamment des challenges peuvent voir cette zone se développer, en particulier lorsqu'ils n'apprécient pas particulièrement le challenge. Donc incorporer régulièrement des activités physiques et mentales difficiles en dehors de sa zone de confort contribuerait à augmenter la résilience et la résistance au stress. S'efforcer de résister aux tentations ou aux habitudes qu'on souhaite voir disparaître renforce aussi la capacité à contrôler ses pulsions, ce qui permet de prendre de meilleures décisions sur le long terme. Conclusion, si tu veux développer ta ténacité, sors de ta zone de confort.
Ça, on a tout.
Laurent Désir, très énervé. Je vous écoute.
Bah oui, parce que, mais merci d'avoir passé cet extrait, parce que c'est intéressant, non pas pour stigmatiser ce genre de discours, mais pour essayer de le comprendre. Parce qu'on a absolument tout dans cet extrait. C'est-à-dire l'appauvrissement de notre vocabulaire émotionnel, intime, et je parle sous votre contrôle, mais psychique. C'est-à-dire que on a d'un côté, il y a deux colonnes. On a maintenant un psychisme à deux colonnes. Il y a le tout stress. Tout est stress, donc on parle plus d'angoisse, de peur, de tout est stress. Et en face, l'autre colonne, tout est résilience. Donc voilà, on a transformé la psyché humaine, qui est quand même très complexe, à deux colonnes. Donc pour éviter le stress, il n'y a qu'une seule solution, la résilience. Et puis, ce que je disais, ce vocabulaire qui se veut scientifique, si on peut le localiser dans le cerveau, ah, c'est objectif, ça existe, la résilience, c'est un bienfait, on peut même en vendre et en faire des gélules. Vous voyez, cette espèce
de faux soubassement.
Ouais. Et puis, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais cette injonction à l'héroïsation, dans une sorte de confusion entre l'héroïsme et la performance sportive. On ne sait plus où est la frontière. On ne sait plus s'il faut être soi-même un peu l'auto-entrepreneur de sa vie qui ne connaîtra aucune perte, puisque la résilience, ça évite la perte, hein. La plainte, la colère et la perte. Ou si on est soi-même des athlètes de la vie, où il faut absolument qu'on remporte des médailles. Donc, vous voyez, il y a cette confusion du vocabulaire est sportif et héroïque et en même temps, l'appauvrissement total de notre vocabulaire. Et à mon sens, quand on appauvrit le vocabulaire, c'est qu'on appauvrit sa vie.
Oui. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, Didier Houzel, ou vous voulez qu'on aille directement chez les chercheurs qui nous intéressent pour le concept de...
Brièvement, quelque chose qui me touche, mais dans le sens négatif du terme, dans cet extrait, c'est qu'on se réfère au cerveau comme si ça existait un cerveau isolé. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais vu un cerveau résilient. De même qu'on n'a jamais vu un cerveau, comme on dit, on lit dans la littérature, lire quelque chose ou exprimer quelque chose. Non, un cerveau, c'est à l'intérieur d'un sujet qui est en relation, et qui a une histoire, qui a des antécédents et qui a une vie psychique, émotionnelle, pas simplement cognitive. Et tout ça, c'est... Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Heidegger disait, je crois, la science ne pense pas. Je crois qu'il se trompait. C'est pas la science qui ne pense pas, c'est la technique. Et on réduit le questionnement scientifique, la pensée scientifique, à des pures techniques, des pures localisations géographiques dans les sphères cérébrales, sans plus se poser de questions. Alors, c'est pas vrai, des vrais neuroscientifiques. Mais l'usage qui est fait de neurosciences actuellement est absolument calamiteux, au point qu'on n'a plus le droit de parler de psychopathologie, on doit parler de troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire la racine psyché est exclue, condamnée. Moi, je me suis fait gronder par une représentante de l'ARS de la base Normandie parce que j'avais utilisé le terme psychopathologie. Il n'y a plus de psyché, il n'y a plus que du neuro, un cerveau qui fonctionne tout seul.
Alors, merci pour toutes ces précisions. Et donc, partons un peu en Angleterre, au Royaume-Uni plus exactement, dans les années 1920 et 1930. On peut dire que les premiers penseurs qui deviendront ensuite les conceptualisateurs du mot résilience, alors eux, pour le coup, ils partent de la souffrance. C'est la souffrance infantile, la souffrance des adolescents. Ils se rendront compte à un certain moment que certains, pour des raisons qu'ils veulent explorer, souffrent parfois un peu moins dans les mêmes situations, ou peuvent aller un peu moins longtemps dans de la souffrance aiguë. Mais c'est pas leur premier problème. Le problème, c'est la souffrance. John Bowlby est né en 1907. Il fait des études de médecine, il deviendra psychiatre dans les années 1920. Il est psychanalysé par Joan Rivière, proche de Melanie Klein. Il sera ensuite, après la guerre, analysé en deuxième tranche par Melanie Klein. Il travaille dès la fin des années 30 à la London Child Guidance Clinic, qui s'occupe de délinquants, adolescents, dont il remarque que beaucoup ont été séparés de leur mère dans leur enfance. En 1939, il publie avec Emmanuel Miller une lettre à propos de l'évacuation des enfants de 2 à 5 ans. Il met en garde, attention, ne séparons pas trop vite les enfants des parents, ça crée des souffrances prolongées. Et après la guerre, même pendant la guerre, il est sollicité, il est analysé des traumas en fait, hein, à l'instar d'autres que vous avez cités, Wilfred Bion ou Bion, selon la manière de parler, Rickman aussi. Et après la guerre, il va établir donc un service de psychopathologie pour les enfants dans la fameuse clinique de Tavistock. Et il connaît bien les travaux sur les animaux, le comportement animal, l'attachement. Pourquoi tout cela est essentiel pour penser l'attachement, la vulnérabilité et la résilience, Didier Houzel?
Alors, il faut faire un petit peu d'histoire, effectivement, de la pensée et des découvertes dans ce domaine. Bowlby était psychanalyste. Il appartenait au cercle kleinien en Grande-Bretagne. Et il se référait à l'idée que Freud avait avancée, que l'enfant s'attachait à sa mère ou à un substitut maternel parce que c'était la personne qui lui donnait les soins, qui le nourrissait, qui le changeait. Et il a été aussi chargé par l'OMS dans les années d'après-guerre d'étudier les conséquences sur le développement psychique des enfants, des séparations, du fait d'avoir perdu ses parents. Il y avait énormément d'orphelins.
5 à 6 millions d'enfants orphelins, oui. En anglais.
Du fait de la guerre.
Pas seulement anglais, pardon. Enfin, il fait un rapport très intéressant là-dessus.
Il a abouti à l'idée, qui était tout à fait importante, que la théorie de l'étayage, on l'appelait comme ça, hein, cet étayage sur les soins, ne suffisait pas. Elle n'était pas fausse, hein, il n'a jamais dit qu'elle était fausse, mais elle ne rendait pas compte de tout. Et c'est là qu'il s'est tourné vers l'éthologie, et notamment les travaux de Harlow, qui avait fait des expériences avec des leurres, des mamans singes leurres, c'est-à-dire en fil de fer, certaines qui avaient de la fourrure, et d'autres qui avaient une source de nourriture, un biberon. Et on s'apercevait que les bébés singes allaient davantage vers les mamans fourrure que vers les mamans biberon.
Donc, on a besoin donc d'autres choses que simplement de nourriture.
Ça contredisait cette idée de l'étayage sur les soins physiques. Il y avait autre chose.
Et la relation primait, en fait.
Oui. Et alors, il a emprunté l'idée d'attachement à ce que les éthologistes avaient déjà décrit dans les années 30, avec Lorenz notamment, sur ce qu'on appelait l'empreinte chez les animaux, c'est-à-dire le fait que, dès la naissance, le petit animal se fixait à l'adulte proche à partir de perceptions. Ça pouvait être la couleur des poils ou chez les poissons, les écailles ou d'autres, ou du cri. Enfin, bon, à partir d'une perception sensorielle, les petits s'attachaient à l'adulte et suivaient l'adulte, ce qui avait comme intérêt pour les éthologistes de permettre aux petits de trouver des sources de nourriture et aussi d'être protégés autant que faire se peut des prédateurs. Alors, il a transformé cette théorie de l'empreinte en théorie de l'attachement en montrant que c'était beaucoup plus étalé dans le temps, dans l'espèce humaine, et d'une certaine façon beaucoup plus complexe et puis beaucoup plus marqué par l'émotion, par l'affectivité, ouais, par la relation, par la communication. Et donc ça a donné cette idée d'attachement qui risque aussi d'être essentialisée, hein, mm-hmm, avec l'idée qu'il y aurait des bons attachements, des moins bons attachements, des mauvais attachements et tout. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un petit peu la matrice d'origine de ce qui devient la relation.
Est-ce qu'on peut dire, alors, je vais un peu vite, mais c'est pour qu'on reviendra dans le détail,
oui,
que quand ça marche bien, ça, dans la vie d'un individu, quand il y a eu alors une mère, un père, un adulte de remplacement, mais quand il y a eu cette relation, c'est assez protecteur pour l'individu dans la suite de sa vie, alors qu'à l'inverse, on voit bien, dans tous les orphelinats où ils ont travaillé, lui et d'autres, Bowlby et d'autres, et dans les maisons avec des adolescents délinquants, que souvent, c'est que ce lien-là a été malade.
Oui, c'est vrai que c'est protecteur, et les travaux de Ainsworth que vous...
On va lire, retenu, oui, on va citer un texte.
Que vous allez citer, sont là pour... indiquer dans quelle mesure ça marche bien ou ça marche moins bien ou pas du tout. Mais il ne faut pas non plus en faire quelque chose de figé, de définitif, d'arrêté, parce qu'il y a, et ça j'aimerais pouvoir en parler tout à l'heure, des processus de transformation, des processus d'évolution, des processus d'élaboration, comme on dit en psychanalyse, qui permettent de réparer ce qui ne s'est pas bien passé. Donc il ne faut jamais considérer qu'on l'a trop dit, hein, tout se joue avant 3 ans ou avant 6 ans. Ouais. Ce n'est pas vrai. Oui, les difficultés relationnelles anciennes, très précoces, sont particulièrement difficiles à réparer. Mais pour autant, elles ne sont pas irréparables. Ouais.
Alors, on sait à partir de ces problèmes, dont je voudrais souligner avec vous, je sais que vous y êtes attaché, que ça a été important pour une série de psychanalystes, de psychiatres. Il y a quelque chose comme un groupe en ébullition intellectuellement sur le plan thérapeutique. Enfin, c'est assez beau ce qui se passe là en Angleterre. Donald Winnicott a publié en 1939... avec Bowlby, cette lettre sur les évacuations, Wilfred Bion n'est pas loin. Et puis il y a par exemple une chercheuse qui vient de Toronto, Mary Ainsworth, qui en 1946 arrive à la clinique dans le service de John Bowlby, et elle a fait le même genre de découverte, l'importance d'un adulte de confiance. Je voudrais vous faire entendre un texte de Mary Ainsworth où elle prononce le mot « résilient » et juste après, un texte plus tardif de John Bowlby qui vraiment forge le concept.
Par rapport aux nourrissons qui ont un attachement anxieux, ceux qui ont un attachement sécurisant à l'âge d'un an sont plus coopératifs avec leur mère et d'autres adultes moins familiers et sont affectivement plus positifs et moins agressifs et ou évitant à leur égard. Plus tard, ils se révèlent plus compétents et plus sympathiques dans leurs interactions avec leur père. Dans les situations de jeu libre, ils ont des périodes d'exploration plus longues, et font preuve d'un intérêt exploratoire plus intense. Et dans les situations de résolution de problèmes, ils sont plus enthousiastes, plus persistants et mieux à même d'obtenir et d'accepter l'aide de leur mère. Ils sont plus curieux, plus autonomes, plus résilients. Et ils ont généralement tendance à obtenir de meilleurs résultats aux tests de développement, ainsi qu'aux évaluations du développement du langage.
C'était Mary Ainsworth. En 1979, elle est donc passée dans la clinique de Tavistock. C'est le cas aussi de Michael Rutter, qui est un personnage important aussi sur le concept de résilience, qui a été à Tavistock à partir de 1966. Et maintenant, Bowlby lui-même, qui, dans les années 1980, vraiment forge le concept. Écoutez cet article qui explicitement reprend deux publications antérieures, une de 87, une de 82.
Une première tâche scientifique consiste à explorer et à tester l'hypothèse selon laquelle la résilience ou la vulnérabilité de chaque personne aux événements stressants de la vie est déterminée dans une très large mesure par le modèle d'attachement qu'elle développe au cours de ses premières années. Quelles sont les conditions environnementales précises qui permettent à une personne de conserver ou d'atteindre un plus grand degré de résilience ? Et à l'inverse, qui la pousse vers un plus grand degré de vulnérabilité. Cette brève esquisse indique ce qui sera un énorme programme de recherche en psychopathologie du développement. Tout cela requerra des générations de chercheurs. La meilleure comparaison que l'on puisse faire est celle avec le vaste programme de recherche entrepris en immunologie. Là aussi, comme dans notre propre domaine, les chercheurs s'intéressent aux interactions extraordinairement complexes entre un organisme tel qu'il s'est développé depuis ses premières années et l'ensemble des dangers présents ou potentiellement présents dans son environnement. Ces connaissances sur la résilience pourraient aider à planifier des interventions thérapeutiques et aussi guider des actions de prévention. Cependant, comme nous le savons, il existe un autre aspect moins heureux de la situation. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans le soutien et l'encouragement nécessaires de leur famille sont susceptibles d'être moins joyeux, de trouver la vie difficile, en particulier les relations intimes, et d'être vulnérables dans l'adversité. C'est une chance, bien sûr, qu'en dépit de ces handicaps, certains parviennent à s'en sortir, quoique souvent à un coût bien plus élevé pour leur vie émotionnelle qu'il n'y paraît à vue d'œil. Mais les heureuses exceptions ne doivent pas nous faire oublier la règle. Par conséquent, pour prendre une analogie avec la médecine physiologique, le fait que certains gros fumeurs survivent n'est en aucun cas un argument en faveur du tabac.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Ça, c'est un texte de Bowlby, avec cette allusion à la fin au fait que c'est pas parce que certains s'adaptent mieux, réussissent à surmonter des épreuves, que ça plaide en faveur des épreuves. Quand il prend l'analogie avec le tabac, ça fait du mal le tabac, c'est pas parce que certains survivent très bien qu'il faut pas lutter contre le tabac. Qu'est-ce que cette réflexion vous inspire, et notamment le diptyque là qu'il met en place? Vulnérabilité, c'est un pôle. L'autre pôle, c'est résilience. Il faut encore faire des travaux là-dessus, dit-il. C'est conceptuellement très intéressant comment John Bowlby réfléchit. Didier Houzel.
Oui, je trouve que Bowlby essaie de faire valoir un peu son idée autour de sa théorie de l'attachement, oui, et probablement en réaction contre les psychanalystes britanniques notamment, qui n'avaient pas du tout bien reçu cette théorie.
En particulier Melanie Klein, qui l'a eu 7 ans en analyse et qui après n'a pas du tout aimé son travail.
Oui. Melanie Klein et tout le groupe kleinien, ouais, et au-delà même, pour une raison, c'est qu'ils s'intéressaient à l'environnement de l'enfant. L'environnement du bébé, l'environnement de l'enfant, comme l'a fait Winnicott par exemple. Alors que pour les psychanalystes purs et durs, tout se passait dans le monde interne.
C'est un peu intrapsychique, vous voulez dire.
Intrapsychique.
Et les événements extérieurs ne sont pas l'enjeu décisif.
Oui, en tout cas, bon, ben, la psychanalyse n'explore pas ça. Et donc, on trouvait qu'il déviait de la psychanalyse stricte vers une théorie plus développementale qui faisait fi un peu des bases psychanalytiques. Je pense que c'était aussi un affrontement trop brutal. Enfin, il y avait quelque chose de très intéressant dans la découverte de Bowlby. Alors, je vais encore faire une relation avec Bion.
Oui.
Parce que Bion, il ne parle pas trop de l'attachement, mais il parle de préconception. C'est-à-dire qu'il considère que le bébé naît avec quelque chose déjà. Quelque chose qui est assez difficile à définir parce que c'est avant qu'on puisse le concevoir, mais une attente d'eux. Et une attente de, le bébé sait pas quoi, mais c'est quand il le trouve qu'il peut le reconnaître en quelque sorte. Et je pense qu'il y a un lien possible entre l'attachement au sens de Bowlby et l'idée de préconception au sens de Bion. C'est-à-dire que l'attachement en question n'est pas figé une fois pour toutes dans la première année ou les trois premières années, mais c'est des attentes d'eux qui sont satisfaites tout à fait ou partiellement, jamais complètement d'ailleurs, ou pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas être satisfaites ultérieurement dans des circonstances très 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 particulières, peut-être, mais en tout cas que les choses ne sont pas fermées, bouclées à tel ou tel âge. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurence de Villers, notamment la manière de réfléchir et de passer d'un mot à un concept dans le texte même de Bowlby que nous venons de lire?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que autour de ces pédopsychiatres ou psychiatres, psychanalystes, c'est que se met en place une théorie de l'attachement, une théorie de la relation. Et je trouve que si on parle dans un langage plus philosophique, c'est intéressant parce que c'est l'idée que le sujet n'est pas quelque chose de fermé sur lui-même, mais qui comporte dans sa réalité même une relation. Vous avez dit attente, disposition. C'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, je est un autre. Il y a déjà de l'altérité dans mon sujet. Je suis déjà en attente de l'autre, et même, je dirais, dans la relation que j'ai avec moi. Et donc, c'est intéressant, je trouve, philosophiquement, de voir que c'est dans une théorie de la relation qui est première, qui est la cause, qu'on a pensé la souffrance. Et je crois qu'il y a quelque chose de très juste qui a été mis au jour, l'idée que la souffrance, c'est l'absence de lien, c'est l'absence de relation. Et c'est vrai que quand on souffre, on a l'impression de plus avoir même de relation à soi-même. On n'a plus de monde,
oui.
On n'habite nulle part. Donc la résilience, c'est intéressant de resituer cette notion scientifique dans ce qui lui a donné le jour, c'est-à-dire une théorie de l'attachement qui permettrait de comprendre la souffrance et de l'atténuer. Parce que encore une fois, la souffrance, et je crois que c'est vrai philosophiquement, la souffrance, c'est l'absence de relation, quand on n'a même plus de relation à soi. Donc, dans ce sens-là, la résilience prend un sens qui peut être intéressant. C'est-à-dire comment on recrée du lien quand ce lien n'a pas été là ou a été abîmé ou est abîmé dans la souffrance. Oui. Donc, dans ce sens-là, oui. Maintenant, pour répondre à votre question, Géraldine, c'est que on avait un travail de scientifique et Bowlby le dit lui-même. Il va falloir des générations
de chercheurs qui vont tester
l'hypothèse. Seulement, le langage courant n'aime pas les hypothèses. Non, mais on aime le définitif. Et puis, je crois même qu'on a une tendance à être parfaitement manichéen. On a horreur, non pas de la nuance, je crois, mais de l'articulation. Vous voyez, d'articuler des choses, parce que ça prend du temps, c'est pas rapide, c'est pas sensationnel et ça fait pas le pitch. Donc, on a utilisé le mot résilience parce qu'on avait cette satisfaction de voir un mot pseudo-scientifique qui voulait tout dire et qui permettait de ne plus parler ni de politique ni de morale. Et j'ajoute, de faire en sorte que l'individu ne choisisse pas la plainte et la colère. Donc, c'est même plus un concept. Je crois qu'on est passé du domaine scientifique qui articule des hypothèses avec des expériences et des théories à quelque chose qui est absolument plus articulé, qui est un mot cliché, mais au sens fort de cliché, c'est-à-dire un mot qui n'a plus besoin de penser quoi que ce soit.
Alors évidemment, on va oublier des noms là, de gens qui ont travaillé là-dessus, je les cite rapidement, je pense à Amy Werner par exemple, qui a fait des travaux allant dans le même sens sur l'île de Hawaï en fait, dans les années 50. Il y a aussi en France Jenny Aubry qui, très tôt après la guerre, a fait des observations analogues sur la fragilisation que produit un défaut d'attachement à une personne de confiance dans l'enfance. Mais la résilience, même s'il faut plein de recherches, plein de prudence, c'est magnifique les précautions de Bowlby. Enfin, je trouve, scientifiquement, philosophiquement, magnifique. Ça, conceptuellement, ça veut quand même dire, Didier Houzel, la capacité à recréer une relation de confiance. Ceux qui sont capables de cela, peut-être parce qu'ils ont eu un modèle dans l'enfance ou parce qu'ils ont créé un modèle de substitution, potentiellement, c'est ça la résilience, encore une fois, avec toutes les précautions d'usage.
Je crois qu'il faut revenir à l'origine de l'emprunt de ce terme qui était emprunté à la physique des matériaux par les psychologues, les psychopathologues, les pédopsychiatres. À l'origine, ça a un objectif épidémiologique.
Oui.
Un auteur comme Michael Rutter ou comme James Anthony utilise ce terme dans le sens quelles sont les conditions collectives qui vont permettre d'avoir le moins de difficultés dans le développement psychique de la population en général. Alors, ils en ont reconnu trois, des conditions physiques, constitutionnelles. On n'a pas trouvé grand-chose. Il y a quand même un auteur qui a trouvé qu'il y avait une différence chez les gens qui sécrètent davantage de monoamine oxydase A. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas du tout quelle est la fonction de cette substance. L'autre, c'est la qualité d'une relation à une personne. Et puis la troisième, c'est la cohérence de l'entourage.
Oui.
Et ça, c'est très important. Et là-dessus, on peut alors avoir des réponses, y compris politiques, sur la cohérence de la façon dont va s'occuper des enfants, accompagner les parents, etc.
Est-ce que... Oui, pardon.
C'était vraiment une idée épidémiologique. Ce n'était pas du tout appliqué à tel ou tel individu. Il ne parlait pas de la résilience de tel enfant.
On était dans la période d'après-guerre aussi, donc...
C'était dans l'après-guerre, où on avait cette masse. Avant-guerre, on n'avait pas beaucoup de sensibilité à ce problème du développement psychologique lié aux conditions de vie de l'enfant. Les enfants qui tournaient mal, on pensait que c'était des mauvaises graines, quoi. En gros, on s'occupait quand même un petit peu de qu'ils soient pas maltraités ou qu'ils soient pas trop maltraités en tout cas. Mais enfin, c'était quand même encore très 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 peu pris en considération. Et c'est la masse d'enfants séparés, orphelins, etc., de la guerre, qui ont attiré l'attention là-dessus, couplé à l'exploration psychanalytique.
Oui, parce que vous évoquiez Wilfred Bion, vous prononcez Bion.
Oui.
Vous dites vous-même, vous l'écrivez dans certains articles, y compris à propos du concept de résilience, qu'il a aidé à penser la manière dont déjà le petit enfant, quand il est aidé par une relation de confiance... c'est vous qui allez expliquer, parce que c'est impressionnant comme ça, mais je crois que ça s'explique et vous le direz mieux que moi. Il passe de ce qu'on appelle des éléments bêta à une fonction alpha qui, si j'ose dire, digère, puisque la métaphore digestive est très importante chez Bion, qui digère un certain nombre de choses très difficiles pour lui, et c'est souvent le lien à la mère ou à la personne de confiance qui l'aide. Est-ce que vous pourriez expliquer cela ?
Oui, l'idée de Bion, c'est que l'enfant vit des choses intensément, mais il ne peut pas les gérer psychiquement.
Mm-hmm.
Il ne peut que les évacuer, en quelque sorte.
Oui.
Ce qu'on appelle la projection en psychanalyse, ou l'identification projective. Et le rôle de la mère ou de son substitut, qui peut être aussi le père d'ailleurs, c'est de transformer ces projections en quelque chose qui devient assimilable psychiquement, ce qu'il appelle des éléments alpha.
Alpha à la place des éléments bêta.
Et c'est la fonction alpha, ce qu'il appelle aussi la capacité de rêverie maternelle, qui permet que la réponse que la mère apporte devienne assimilable psychiquement, prenne sens, au fond, prenne sens. C'est toujours un peu après coup que le bébé peut se dire « Tiens, ben, c'est ça qu'il me fallait ». Ou « Ah ben c'est pour ça que j'étais pas bien ou... ». Parce que c'est apporté par l'autre, par le partenaire.
Ça peut expliquer le langage, cela dit aussi. Hein.
Ça peut expliquer le langage, tout à fait. Tout à fait, oui.
Alors je voudrais maintenant qu'on écoute Boris Cyrulnik, qui a beaucoup utilisé cette notion de résilience, qu'il a appliquée à divers domaines, qu'il l'applique aussi à, aux trajectoires individuelles. Je rappelle que d'autres Français, avant lui, s'intéressaient aux problèmes des soins maternels. Je pense en particulier, dès les années 60, à Serge Lebovici. C'est dans une autre perspective que Boris Cyrulnik est arrivé avec ce concept très central dans son œuvre. Et évidemment, on sent la dette que lorsqu'il est sommé de préciser exactement ce qu'il entend par là, écoutez... en septembre 2024, un propos de Boris Cyrulnik à la Grande Librairie sur France 5.
L'individu est une notion inventée par l'Occident. C'est-à-dire que dès l'instant où on emploie le mot résilience, implicitement, ça veut dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Seul, alors c'est, je vais employer un mot technique, pendant, seul mon cerveau s'atrophie. C'est pas une image. On le photographie, on le dose, on le mesure. J'ai besoin des autres pour devenir moi-même. J'ai besoin de parler avec les autres pour stimuler les zones cérébrales de ma parole. J'ai besoin de lire les autres pour avoir des émotions, agréables ou désagréables, peu importe, ça me structure. C'est-à-dire que je ne peux, il faut l'individu est pénétré, sculpté par l'environnement. L'exemple le pire, c'est... Puisque vous êtes résilient, vous n'avez pas besoin des autres pour vous développer. Vous avez eu un trauma, mais puisque vous êtes résilient, vous êtes un surhomme. Donc débrouillez-vous sans état, débrouillez-vous sans aide, ce qui est l'exact opposé de ce qu'on prétend.
Laurence de Villers, là, dans cet extrait, on sent que Boris Cyrulnik est gêné par certains usages qui vous énervent vous aussi du mot « résilience ». C'est vrai, par ailleurs, que peut-être d'autres fois, il a tendance à l'utiliser beaucoup. Soyons simples avec ce problème. Est-ce qu'il a fait du bien à la notion en la popularisant? Est-ce que parfois, il l'a surutilisée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence de Villers?
Je pense qu'en fait, derrière la surutilisation... Il y a un symptôme de notre époque, c'est-à-dire qu'on a le mot cliché qu'on mérite, après tout. Et je pense que la popularité que Boris Cyrulnik a pu donner à cette notion, ça le rend pas coupable. En revanche, nous, on est peut-être coupable de s'être engouffré dans cette surutilisation. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre époque que...
C'est très intéressant.
Tout le vocabulaire moral, vous voyez, ou même le vocabulaire de la vie intérieure, pour le dire autrement, et le vocabulaire de la souffrance, le vocabulaire aussi de la justice, des justices politiques, comment ça se fait que ça s'est résumé à ce mot. C'est là où je crois qu'il y a une culpabilité collective.
Comme vous y allez. Et vous, Didier Houzel, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Boris Cyrulnik parce qu'il a un immense talent. Et je pense que le succès du mot résilient est beaucoup dû au talent de Cyrulnik, qui écrit très bien, enfin qui se lit très bien. Peut-être effectivement il a été un peu emporté par son propre succès. Dans la citation qu'on vient d'entendre, il fait référence au cerveau. Alors, ce que ça me pose comme problème, et là je m'engage sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est plus philosophique, c'est la notion de causalité. Parce que si on se réfère au cerveau, on va trouver des choses. on va trouver des corrélats. Et c'est ce qu'un philosophe américain, Charles Murs, a appelé la question facile. Elle n'est pas si facile que ça, mais enfin, on peut avoir des réponses. La question difficile, c'est comment ces corrélats se transforment en quelque chose de psychique. Et là, on ne peut pas isoler le cerveau, encore une fois. Et il faut vraiment s'intéresser aux gens, aux sujets.
Et faire des recherches, comme nous le disait Bowlby. La recherche ne doit pas s'arrêter. La résilience est en train de devenir un mot comme une donnée. Et ça, c'est très embêtant. Oui. Alors que c'est un programme de recherche.
Oui. Et à la limite, on chercherait dans les structures cérébrales ce qui fait qu'on est résilient, moins résilient ou pas résilient du tout. Et là, je pense qu'on est dans une fausse piste, tout simplement. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le plan épidémiologique.
Oui.
Il y a des notions très intéressantes dans l'idée qu'on peut diminuer la souffrance psychique et les problèmes de développement si on améliore telle ou telle condition extérieure de vie des gens.
Est-ce que vous voulez ajouter ? Oui, je vous en prie. Il nous reste une grosse minute. Oui. Je la donne à qui veut la prendre. Vous voulez dire
non, je pense que c'est intéressant de se dire que c'est pas parce qu'on aura localisé quelque part dans le cerveau qu'on aura éclairci absolument le mystère du vécu humain. Oui. Qu'est-ce que ça fait de vivre un attachement ou de vivre de la souffrance ? Mm-hmm. Et ça peut absolument pas se résumer à un mot. Résilience ou alors son opposé, stress ou vulnérabilité. Ce qu'on perd, c'est ce mystère humain qui fait que cette souffrance, quand je l'ai vécue, ça a donné ma vie, ma biographie, ce que je suis. Et puis, je vais ajouter quelque chose de paradoxal, mais moi je tiens à mes souffrances. Je veux pas rebondir, je veux pas résilier. D'abord, je suis pas de la tôle froissée, pour reprendre la forme que j'avais au départ. Et ma souffrance, c'est aussi moi. Vous voyez, cette injonction...
Si je puis me permettre, mais on n'a pas le temps de creuser. Je trouve que cette époque est vraiment binaire. Quoi. Soit on est dans le discours de la souffrance et de la victime, qui, vous me l'accorderez, est très présent. Soit on est dans le discours de la résilience. Quoi. C'est comme si on avait du mal à...
À l'articulation.
Ouais. C'est impressionnant, non ?
Mais oui, c'est-à-dire qu'on met hors la loi la souffrance et en même temps, on lui donne une telle place parce qu'on a l'impression que toute la finalité d'une vie, c'est d'aller bien. Bah non, moi, la finalité de ma vie, c'est pas d'aller bien, c'est d'être libre, par exemple. Voilà, il y a autre chose qu'aller bien. Et on a l'impression que tout se résume à ça. Bah non, moi, je préfère la liberté au bien-être.
D'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifiée. Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée et tu reviens, si sûre de toi, avec ce regard vide, ce teint livide, ces mots stupides et tristes. J'aurais dû changer la serrure ou mieux te reprendre la clé si j'avais pu. Que tu reviendrais me troubler, sors de ma vie,
sors de ma vie.
Ne reviens plus, car désormais tu n'es plus le bienvenu. J'ai trop pleuré, j'ai envie de rire aujourd'hui, de t'oublier. Et tant que je saurai aimer, je survivrai. J'ai tellement sur terre de choses à faire que je préfère te dire, n'essaie pas de m'attendrir, n'essaie pas de revenir. que je saurai aimer, je survivrai.
Et c'est Régine que vous entendez. Et oui, avec la vie qu'elle a eue, elle a adapté la chanson « I Will Survive » au moment de sa sortie en 1978, alors qu'elle était interprétée par Gloria Gaynor. Régine l'a adaptée en français « Je survivrai ». Et depuis, vous savez à quel point cette chanson est devenue l'hymne national du foot, mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup Laurence de Villers et Didier Houzel. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter Frédéric Worms. Il s'intéresse cette semaine au climat, à la responsabilité qu'il suscite. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi sommes-nous responsables du climat ? La notion de climat fait, pour ainsi dire, aujourd'hui partie de notre climat. Elle est partout, elle semble nous dominer, en quelque sorte, avec ce paradoxe que, d'un côté, le climat ne dépend absolument pas de nous, ce sont des facteurs globaux, externes, c'est presque la notion la plus externe de toutes les notions externes, de cette notion d'environnement qu'Einstein, le grand physicien, définissait d'une manière géniale, comme toujours, en disant « l'environnement, c'est ce qui n'est pas moi ». Ce qui n'est pas nous, ce qui m'entoure. Et le climat, en effet, semble ne pas dépendre de nous, ne pas dépendre des humains. Et pourtant, il y a aujourd'hui deux facteurs de responsabilité climatique majeurs. D'abord parce que nous isolons des causes humaines des changements climatiques globaux, et donc il faut agir sur ces causes. Et aussi parce que nous nous sentons responsables des microclimats subjectifs, de l'effet du climat sur la subjectivité, et inversement, car une subjectivité vivante prend conscience du climat où elle vit et ça n'est absolument pas secondaire. Le paradoxe du climat, c'est que c'est un ensemble de causes objectives, mais qui produit un effet subjectif, un effet sur les vivants humains en particulier, qui dépend de leur rétroaction sur ces causes externes qui dominent absolument toute la planète et toutes les conditions de la vie. On ne peut pas penser le climat seulement comme une extériorité, mais justement comme un environnement, un milieu avec des vivants, des humains en particulier dedans, qui ne sont pas neutres, qui réagissent par rapport à ces climats. Mais la responsabilité vis-à-vis du climat se voit peut-être au mieux dans un usage local de la notion de climat. Ces climats qui, par exemple, en Bourgogne, déterminent des petits terroirs qui font la qualité unique, intime, presque exceptionnelle de certains vins par opposition à d'autres qui sont dans le climat voisin. On appelle en Bourgogne climat non pas l'ensemble des conditions planétaires de la météo en général, mais plutôt la singularité d'un arrangement global qui dépend évidemment des humains aussi pour être entretenu. Ce petit sens du mot climat est alors essentiel. On sait que s'il y a une maladie des vignes, s'il y a un changement climatique majeur, tout va être affecté, mais aussi si on change une haie de place, si on change un équilibre, cela ne dépend pas entièrement des humains, mais quand même, malgré tout, ce n'est pas seulement dans le climat global, mais dans la responsabilité locale, minimale, infinitésimale, que nous sommes responsables du climat. Et il en est de même de manière politique, évidemment. Aujourd'hui, la notion de climat ou d'atmosphère n'est plus seulement un impondérable subjectif, comme dans une certaine phénoménologie qui parle d'ambiance, et le philosophe Bruce Bégout y a consacré un très beau livre, mais l'ambiance c'est pour lui quelque chose d'indéfinissable, alors que le climat c'est quelque chose de très précis. On n'agit pas sur un climat seulement en transformant des causes locales, une haie, un terroir, contrôler le sens du vent, l'exposition au soleil, non, on agit aussi sur un climat par des effets subjectifs et politiques d'ensemble, c'est une prise de conscience, c'est l'atmosphère qui règne sur une société, c'est cela peut-être qui permettra de tenir compte de tous les changements climatiques du monde.
Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Mège. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Carla Michel, Axel Dubois, Armance Bourquin, Anna Feulpin et Nassim El-Kabli qui a beaucoup aidé aussi sur cette émission en particulier. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.